Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix.
Et alors, vous pensez que ça a toujours été facile ? Grand-père a travaillé très dur.
Tous ensemble, on va faire n'importe quoi.
Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques, choisir son petit pavillon, choisir son canapé avec les deux fauteuils, le tout à crédit avec un chouette tissu de merde, choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie, choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo.
Moi, j'ai plus rien à faire ici. Adieu, vous ne me reverrez jamais. Ne me regardez pas, j'existe plus. C'est pas moi, c'est mon fantôme qui passe. Adieu.
Ciao, ciao, ciao. Allez, bye, bye, je me barre.
Ouais, je m'en vais au bout du monde. Bon voyage.
Ciao, troupeau. Chaque semaine, de 18h à 19h sur Radio Centrafrique. Lutte sociale, info du pays, autodéfense populaire et politique politique. Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
Ciao troupeau!
Eh oui, Clément avait raison. Sans aucune surprise, c'est Emmanuel Macron qui devient le 8e président de la 5e République française, à l'âge de 39 ans. Putain,
mais...
Ouais, mais... 39 ans, quoi.
39 ans.
Non, mais ouais. T'imagines, le mec, il a à peine 2 ans de plus que moi, Nicolas, qui vous parle, auditrice, auditeur de Radio Saint-Taf, depuis le studio d'une petite radio associative et locale qui existe tout de même depuis plus de 30 ans.
Allez, à vous, tu l'envies.
Pas vraiment, mais par contre ce que je me dis c'est que c'est évident, hein. C'est clair comme de l'eau de roche, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes, celles qui ont le pouvoir et celles qui ne l'ont pas ou qui pensent qu'elles ne l'ont pas, celles qui continuent de croire que le bien-être de la planète et de l'humanité réside dans la croissance et le libéralisme, et celles qui ont rejeté toutes ces sornettes et luttent activement contre cet autoritarisme capitaliste et le nationalisme exacerbé qu'il engendre.
Bah...
Et ouais. Parce que vous n'allez pas me faire gober, auditrice, auditeur de Radio Saint-Taf, que vous ne pensez pas comme moi, merde. Pour une fois qu'on a un jeune président à la tête de l'État, il faut que ça soit une tête de con. Non mais, je m'excuse, hein, mais il a vraiment une tête de premier de la classe qu'on a envie de baffer. Vivement les photos dans les mairies, hein.
C'est
ouais,
clair.
Ouais, je sais, pas sur le physique, c'est bas, c'est lâche, et ça pourrait être pris pour de la diffamation. Mais alors quoi, m'attaquer aux idées? Allez, à quoi ça sert? Je sais bien à qui je m'adresse ici. Parce que vous n'allez pas me faire avaler non plus, auditrice, auditeur de Radio Saint-Taf, que si vous écoutez cette émission en direct aujourd'hui 8 mai 2017, lendemain du résultat des présidentielles, fête de la victoire, hein, ta-ta-na-na, ou en rediff la semaine d'après, que vous n'espérez pas au fond de vous voir vivre une démocratie libérée et épanouie pour les plus modérés à une absence totale d'organes de pouvoir pour les plus radicaux.
Oh.
Bah ouais, il y a ceux qui sont allés voter, même si c'était pour voter blanc, et puis les abstentionnistes. Mais dans les deux cas, il y a bien, si je ne m'abuse, une réelle volonté d'en finir avec un système dépassé et de renouer avec un vivre ensemble en société sans prise de tête et en pleine conscience du monde dans lequel nous vivons tous. Alors, les deux questions qui se posent à nous sont les suivantes. Comment s'y prend-on? Bon, ça, je vois bien, hein, chacun a sa petite idée, puis chacun y va de ses initiatives personnelles. Il y a des réseaux militants urbains, il y a des collectifs à la campagne, il y a des assos, il y a la culture, il y a les ZAD, il y a les petites victoires individuelles remportées au quotidien, etc., etc. J'en passe, c'est sûrement des meilleurs.
Oui, ouais. Certainement.
Ah bah oui. Et puis ensuite, la deuxième question, pourquoi faisons-nous tout cela? Qu'est-ce qu'on met à la place de ce qu'on enlève?
C'est une très bonne question, ouais, à laquelle nous attachons à y répondre chaque jour.
Tout à fait, tout à fait. Si on déplace un truc, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on met à la place de ce qu'on enlève? Alors, Ciao Troupeau vous a diffusé, il y a 15 jours, un excellent documentaire d'Olivier Minot. 2017 n'aura pas lieu. Et pourtant, 2017 a bien
merde,
lieu.
On y est.
Alors, on vous le dit, nous, les brebis galeuses de Radio Saint-Taf, meute média contre masse média.
Wesh, ma gueule.
La révolution n'aura pas pas lieu. Faire une révolution, c'est revenir à son point de départ, enrichi de ses expériences. Non, la révolution n'aura pas lieu. La révolution est déjà là. La révolution est permanente. Ah ouais, j'oubliais. La vérité n'existe pas et trop d'esprit critique tue l'esprit critique. Allez, encore une fois, la gauche peut se rassurer. Nous avons évité le pire. Bonne émission.
Tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois ?
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non, mais Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois ça ?
Alors ? Alors ?
Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles, comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde.
Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen.
Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué ça?
Chaque non, lundi à 18h sur fallu, Radio Sainte-Afrique, c'est ciao troupeau.
Conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant.
Alors?
Alors ?
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non mais Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Ciao troupeau.
C'était Philippe Catherine. Le titre, c'est le 20 avril 2005 et ça se trouve sur son album Robot après tout qui date de la même année, 2005.
C'est une belle référence. Ah, non mais c'est vrai, cette citation complète, c'est bien.
Et ça marche aussi avec Emmanuel Macron, hein, je te rassure, on peut prendre la chanson et puis faire la même. Hein.
Emmanuel Macron, ouais. Putain,
Emmanuel Macron, putain, tu le crois ça? Ouais, bah non, je le crois pas, mais pourtant voilà, c'est bien ça. Ce qui nous arrive.
Alors, voulais qu'on reprenne un petit peu cette histoire-là qu'on avait commencé un peu la semaine dernière sur l'anarchisme.
Sur l'anarchisme et son histoire, ouais, tout à fait.
Exactement.
Tout à fait, je me suis aperçu que j'avais oublié bêtement de citer le titre du documentaire dont je parlais il y a 15 jours.
Ce qui est bien dommage.
Ce qui est bien dommage, tout à fait. Donc ça s'intitule « Ni Dieu, ni Maître ». C'est un documentaire en 2 parties qui retrace une histoire de l'anarchisme réalisée par Tancrède Ramonet que les auditrices et auditeurs que ça intéresse peuvent trouver assez facilement sur le net. Voilà. On a diffusé donc un premier volet il y a 15 jours sur l'expérimentation de communes anarchistes pendant la guerre d'Espagne en 1936. Et aujourd'hui, on vous propose un deuxième volet sur l'éducation libertaire.
Ouais, parce que quand même dans la philosophie libertaire ou anarchiste, l'éducation a une place juste prépondérante.
Exactement.
Quoi. Enfin, en tout cas, ouais.
Exactement. J'ai déjà cité, il me semble, donc il y a 15 jours, Gaetano Manfredonia, qui est un historien et enseignant italien qui travaille spécifiquement sur la question de l'anarchisme et qui est interrogé donc dans les documentaires de Tancrède Ramonet. En 2007, Gaetano Manfredonia proposait une relecture des courants basique de l'anarchisme, à savoir il y en a trois. Le premier est insurrectionnel, c'est celui qui passe par la propagande par le fait, tu vois, c'est les black blocs, ceux qui sont dans la rue et qui lancent des pavés.
Ou même vraiment. Ceux qui au début du XXe siècle faisaient péter des bombes à Marseille ou des trucs
exactement,
comme ça.
Exactement, et même dès la fin du XIXe siècle, oui. Ouais, tout à fait, mais ça vient de là. Il y a cette branche de l'anarchisme qui prône la destruction, la violence pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière. Ensuite, il y a une deuxième branche qui est syndicaliste ou anarcho-syndicaliste qui, elle, travaille plus sur la notion de classe sociale, d'abolition des classes et qui s'est adressée, en tout cas, c'était le cas en Espagne, d'abord aux paysans, aux ouvriers qui essayaient de rassembler. Ça passe par la CNT, donc ça, on en a parlé il y a 15 jours. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, la troisième branche de l'anarchisme, qu'on appelle éducationniste réalisatrice, c'est une branche qui privilégie l'éducation libertaire, qui essaye d'éduquer, c'est de l'éducation populaire en fait, voilà, dans le but de préparer des gens à un après-révolution en fait, tu vois. Il y en a qui sont pour des actions donc plus radicales, il y en a qui travaillent auprès des différents travailleurs pour remettre en place des systèmes de fonctionnement, et puis t'as ceux qui essayent d'éduquer en permanence les gens sur une manière d'être, de penser différente que celle qu'on peut avoir aujourd'hui dans la masse, quoi.
En sachant qu'une pratique n'exclut pas forcément l'autre.
Non, et bien évidemment, elles sont même complémentaires, je pense, ces trois branches de l'anarchisme.
Alors peut-être une petite référence aussi qui est hyper intéressante, un bouquin qui a été écrit en deux tomes par Normand Baillargeon et qui s'appelle Éducation et Liberté, que je conseille chaudement à tout le monde, parce qu'il reprend des textes un peu fondamentaux sur la question de l'éducation notamment, des principaux penseurs, disons, anarchistes du 19e jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment une super compilation de textes assez clairs et pas trop difficile à lire, franchement. C'est cool.
Ouais, c'est cool.
Éducation et Liberté, Normand Baillargeon.
Ok. Bah, je pense qu'on peut y aller, quoi. C'est parti pour 12 minutes, mais ça vaut le coup et c'est assez explicite.
Désespérant de l'action collective, mais aussi victime d'une répression disproportionnée, de nombreux révolutionnaires préfèrent alors se détourner des organisations pour créer, après l'insurrectionnalisme et l'anarcho-syndicalisme, le dernier grand courant du mouvement anarchiste, l'individualisme. Descendants des Lumières et héritiers du romantisme, les individualistes sont les enfants terribles de leur temps. Ils lisent Nietzsche et Stirner, prônent une objection de conscience généralisée et entendent mener immédiatement, en rupture avec les principes autoritaires en cours dans la société, une existence pleine et entière.
C'est des gens dont j'ai examiné les trajectoires cas par cas. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler de leurs mains, mais aussi de leur tête, enfin, être des hommes complets. Ils veulent avoir la vie bonne, ce qu'ils estiment être la vie bonne, et ce qui est très loin de la vie facile, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant.
Ce désir global de changement qui conduit les individualistes à rejeter le travail, la famille, la patrie, tous les fondements de la morale bourgeoise, les amène à proposer des alternatives de vie. Et ces pratiques nouvelles qu'ils inventent alors font d'eux aussi de vrais révolutionnaires.
Ça va concerner absolument tous les aspects de la vie, la sexualité, l'éducation, les vêtements, donc ils vont prôner la nudité, les femmes vont abandonner le corset, les chapeaux, tous les vêtements contraignants.
À la place du mariage, ils vont préconiser l'union libre, ou alors certains, l'amour libre.
Et éventuellement plural, il n'y a pas d'inconvénient à aimer plusieurs personnes à la fois, et pour les femmes et pour les hommes. Enfin ça c'est la doctrine, bien sûr dans les faits il y a beaucoup de grincements de dents et de souffrances.
Bien qu'ils soient individualistes, ces anarchistes ne s'en regroupent pas moins. Et à défaut de changer le monde, ils décident de changer l'univers. Ils créent dans les villes les Athénées libertaires ou des colonies agricoles à la campagne. Et partout, ils partent mettre en cohérence leurs idées et leurs actes, comme ici, en Palestine, où des anarchistes juifs fondent des Gania, la mère des kibboutzim. Mais c'est surtout en Amérique latine que de véritables villes libertaires voient le jour. Il y a la Nouvelle-Australie où s'installa notamment Marie Gilmore, ou encore la Colonia Cecilia, fondée au Brésil par Giovanni Rossi et un groupe d'anarchistes italiens, dont il ne reste qu'une seule image. Pendant 4 ans, ces libertaires abolissent les hiérarchies, la religion et l'argent, s'organisent en conseils, s'aiment librement, et chante des chansons.
Il a chétaria, terra di ladri, con miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formeremo la colonia sociale. E tu borghese ne paghi il fio, tutto precipita, re padre Dio, e l'anarchia forte e gloriosa e vittoriosa trionferà, sì sì trionferà.
Mais l'anarchie ne triomphe pas, et ces colonies, véritables contre-sociétés qui devaient être le germe du monde nouveau, ferment les unes après les autres. Certains individualistes se disent alors que si pour changer la société, il faut bien changer l'individu, pour changer l'individu, il faut reprendre le mal à la racine. Or, selon eux, l'école bourgeoise inculque dès l'origine aux enfants des valeurs autoritaires et centralise tous les dispositifs de pouvoir. Il faut donc s'y attaquer et y porter la révolution. Ils se font alors éducationnistes réalisateurs et conçoivent des pédagogies nouvelles où l'antique paideia se mêle au principe libertaire.
La tâche de l'anarchiste, c'est d'être un éducateur. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte faire l'homme nouveau avant de faire la société nouvelle. Il y a une très grande exigence d'élévation intellectuelle, sensorielle, physique même. Ils ne négligent aucun des aspects de la vie.
Des expériences de nouvelles formes d'éducation fleurissent aussitôt à travers le monde. La ruche de Sébastien Faure ou l'orphelinat de Saint-Puis de Paul Robin. Mais l'une des plus complètes est l'école moderne, fondée en Espagne sur les principes anti-autoritaires par Francisco Ferrer.
Francisco Ferrer est un pédagogue anarchiste très important. Il a créé le mouvement des écoles modernes. L'idée était de faire une éducation séculaire, laïque, non seulement à destination des enfants, mais aussi des adultes, basée sur des relations égalitaires entre les élèves et les professeurs.
C'est une éducation intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois manuelle et intellectuelle. L'enfant doit savoir à peu près tout faire. Elle est fondée exclusivement sur l'usage de la raison, c'est-à-dire on ne veut rien imposer à l'enfant de l'extérieur.
Nous ne craignons pas de le dire. Nous voulons faire des hommes dont l'indépendance intellectuelle sera la force suprême, qui ne se soumettront jamais à rien, capables de discerner ce qui est bon et qui aspireront à vivre 1000 vies en une seule. La société craint de tels hommes et il ne faut pas attendre d'elle qu'elle soutienne jamais une éducation capable de les produire.
C'est ça qui est fascinant quand on lit les anarchistes sur l'éducation. C'est, et à mon avis, c'est parmi les rares théoriciens de l'éducation qui sont conscients de ça, ils se méfient d'eux-mêmes. Ils ont une telle méfiance à l'endroit de l'autorité illégitime, y compris en éducation, que leur réflexion sur l'éducation comporte une profonde réflexion sur les risques d'endoctrinement que porte leur projet. Alors vous allez lire des mots, presque, je cite presque textuellement, « Rappelons-nous toujours que nous ne voulons pas faire de bons petits anarchistes. Méfions-nous toujours de notre propre pouvoir sur les enfants. Nous tentons de faire des hommes libres. Il se pourrait qu'ils pensent autre chose que nous plus tard. C'est à ça qu'on reconnaîtra qu'on a véritablement fait des hommes libres. »
Ces écoles laïques et libertaires, où les enfants posent en cagoule, suscitent bien sûr le fantasme. Et leur succès inquiète autant le clergé que la bourgeoisie. Il faut arrêter au plus vite Francisco Ferrer, leur fondateur qui s'est pourtant toujours opposé à toute forme de violence. Une occasion est trouvée au cours de la semaine tragique de Barcelone de l'inculper à tort.
Il est très vite visé par la répression qui en 1909 l'accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et le condamne à mort.
Il va y avoir une solidarité internationale qui va se développer sur tous les continents, hein, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe. Il y aura des manifestations pour empêcher l'exécution, il y aura des pétitions, il y a même des gouvernements qui vont intervenir pour demander au gouvernement espagnol de l'épargner, mais Ferrer est exécuté. Et alors, quelques heures après son exécution, des foules se rassemblent partout dans les grandes villes, mais notamment à Paris. L'émeute parisienne sera la plus spectaculaire de toutes, le 13 octobre 1909 exactement. Il va y avoir une émeute d'une intensité extraordinaire. Les terrassiers, qui sont vraiment la fleur du prolétariat de cette époque, arrivent pioche à l'épaule, dépavent les avenues, mettent à nu les conduites de gaz, les percent, les enflamment. Paris est transformé en brasier.
L'assassinat de Ferrer par la justice espagnole provoque en France les échauffourées les plus violentes depuis la Commune. Et c'est dans ce contexte de répression généralisée, on l'oublie trop souvent, que certains individualistes vont reprendre partout la voie des armes, comme au temps de la propagande par le fait, mais avec, cette fois, la conscience de la vanité de leurs gestes et l'assurance de la tragédie qui les attend.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courbe à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ce qui cause nos misères. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'appliquaillent, et si nous protestons trop haut, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la démocratie. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est toujours la même supercherie. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, magistrature, état militarisme, patrons et gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ouais. Voilà, donc du coup, il nous reste 5 ans pour réaliser l'idéal libertaire, quoi, dans les prochaines.
Bah, 5 ans, c'est pas mal, ça laisse le temps de s'organiser un petit peu quand même, Nico.
C'est ça.
Bon, exactement. Bah, ok, donc d'accord, donc on rappelle peut-être un peu la référence de ce documentaire là.
Donc, Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, réalisé par Tancrède Ramonet. et que les auditrices et auditeurs de Radio Saint-Af peuvent aller chercher, trouver assez facilement sur le net. Voilà.
Bon alors, moi, à titre personnel, ce qui m'a beaucoup... à titre personnel...
Qu'as-tu fait ce week-end?
Non, j'allais faire une belle introduction et tout. Non, j'allais dire que bon, c'est ni le score de Le Pen, ni le score de Macron qui m'ont déçu cette fois-ci. Mm-hmm. C'est le score de l'abstention.
Ouais, tout
parce
à fait.
Que franchement, 25%, c'est pas beaucoup. Si je crois que c'est à peu près ça le chiffre qui a été avancé.
C'est pas beaucoup, enfin, c'est quand même une des plus fortes abstentions, je trouve.
Eh ben, j'aurais bien aimé que ce soit aux alentours de 50 ou de 80, plus, tu vois, ça m'aurait bien plu. Et en fait, du coup, ce week-end, il y a eu, ce samedi, donc c'était le 6 mai, une petite balade amplifiée et abstentionniste pour appeler les gens à ne pas aller voter.
À Toulouse.
Bah ouais, à Toulouse. Ouais. Oui, je l'ai pas dit, mais c'est mieux, mais c'était pas Saint-Afrique.
Ouais.
Et donc, petite balade prévue, rancard centre-ville de Toulouse, au bord de Garonne, et puis dans la joie et la bonne humeur.
Cool.
Ce qui était cool, c'est qu'on était accompagné de musique. Et du coup, on s'est dit que ça serait bien de la diffuser à Radio Saint-Af parce que c'était de la bonne musique.
Ça, c'est une bonne idée.
Alors, on commence par écouter un petit peu ce qui s'y est fait, ce qui s'y est passé, ce qui s'y est chanté. Et puis ensuite, on en reparlera un petit peu plus en détail.
Oui, bon, où je suis. Oui, j'aime le canon. La mitraille dans l'air, ami, ami, chanson.
La danse des bombes garde à vous. Voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, ami, chantons.
La danse des bombes garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons,
amis dansons, la danse des bombes garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons.
La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux.
Chantons, amis, dansons, la danse des bombes garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille.
Ah, ça envoie ça, mon pote.
Ça décoiffe, ah, ouais, copain. Grave,
ouais. Donc, ça décoiffait sec et sévère ce 6 mai. Donc, c'était samedi dernier à Toulouse. Et donc, c'était une espèce de cortège abstentionniste, comme je le disais, avec de la musique à donf, puisqu'il y avait en fait, au cœur des 300 ou 400 personnes qui étaient là, il y avait une sorte de bateau en bois qui portait une batterie, des amplis basses, etc.
Okay.
Et donc, on se déplaçait de place en place, comme ça, on allait du Quai Saint-Pierre à la Dorade, on est allé en plein milieu du Capitole, alors qu'il y avait des gros trucs capitalo en plein milieu, c'était très très drôle, jusqu'à Arnaud Bernard, donc voilà, pour appeler à s'abstenir en fait, genre juste à pas aller voter et pas donner de la légitimité à des gros connards. Et donc au milieu il y avait plein de petits panneaux qui étaient très très drôles, alors je m'en souviens pas de tous, mais du coup j'en avais noté un quand même que je trouvais très drôle, c'était ni Le Pen, ni Macron, Nintendo. Voilà,
ça résume la situation.
Donc c'était assez joyeux quoi, et c'était quand même assez déterminé. D'ailleurs il y avait des gens qui étaient un petit peu, enfin on était tous un petit peu énervés quand même dans l'idée, et mais du coup c'est quand même, et je ne sais pas, mais en tout cas c'était quand même quelque chose qui se voulait joyeux et vraiment en mode
convivial,
convivial quoi, accessible à tout le monde, etc., etc. Et donc on a été suivi par très très peu de flics, mais il y en avait quand même quelques-uns qui traînaient par là. On s'écoute un deuxième titre et on en reparle juste après.
Yes.
Je souviens ma mère m'aimer et je suis au galère. Je souviens ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, va pas comme un sauvage, t'amuse pas comme les oiseaux. Elle me disait d'être sage, j'ai pas tué.
déjà une bâche qui se met juste au-dessus de nos têtes, mais ça va pas suffire pour tout le monde, je crois.
L'ambiance est...
Oh, cette ambiance est...
Ah, mortelle.
Et donc ça, c'était la petite balade abstentionniste de samedi dernier à Toulouse. Alors, comme je le disais, très peu de flics, mais quand même quelques-uns. Et tiens, c'était étonnant, puis c'était même tétonnant, puisqu'ils étaient à deux roues.
Ciao, troupeau!
Le 6 décembre 1986, à Paris, après une manifestation étudiante contre le projet de réforme universitaire de Vaquet, Malik Oussekine est tabassé à mort par deux policiers de la BAC à moto. Le lendemain, le ministre démissionne, étudiants et lycéens défilent en silence dans toutes les villes portant des pancartes « Ils ont tué Malik ». Le 8 décembre, deux jours après, Chirac, Premier ministre, annonce le retrait du texte de la loi. Jean Schmitt et Christophe Garcia, les deux auteurs du matraquage mortel, ont comparu trois ans plus tard devant la cour d'assises de Paris pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Tiens, les chefs d'inculpation n'ont pas changé depuis. Ils sont condamnés le 28 janvier 90 à 5 ans et 2 ans de prison avec sursis. Le PVM, le peloton de voltigeurs motorisés, ce sont des policiers montés à deux roues sur une moto tout terrain. L'un conduit, l'autre est armé d'une matraque. Ils ont comme mission de nettoyer les rues après les manifestations en pourchassant les casseurs.
Ah, c'est sympa comme programme.
Ce peloton de voltigeurs motoportés est mis en service lorsque Charles Pasqua devient Premier ministre de l'Intérieur en 86. Tiens, on fait un petit salut à Charles.
Ouais.
Pasqua, justement, qui souhaite, entre autres, rétablir la peine de mort pour protéger les fonctionnaires de la sécurité.
Ah bah tout va bien.
Évidemment. Le corps de police, le PVM, le peloton de voltigeurs motoportés, a été dissous à la suite de cette affaire. Le 31 mars 2016, à Toulouse, les manifestants contre la loi travail et les passants se font gazer abondamment sur la place Saint-Cyprien et tout autour. Les grenades pleuvent. Un témoin nous dit qu'il suit les tambours de la Batucada et qu'il se retrouve à 40, bloqué entre deux murs de CRS devant une école. Après négociation, il les relâche par petits groupes de 10, sans contrôle et sans broncher. En fait, ils font à peine 50 mètres qu'ils sont à nouveau chargés par les flics. Les motos de la BAC nous traquent et nous matraquent sur tout le chemin des allées Charles de Fitte à rue Lagan, le long de la prairie des filtres. Brassard sur le bras et parfois sans. Le motard de devant conduit, celui de derrière a la gazeuse dans une main, le doigt sur la détente et la matraque dans l'autre. Il nous pourchasse pendant plus d'une demi-heure en nous donnant des coups d'accélérateur et en frappant les gens sur la tête, le dos avec leur matraque. Il s'acharne sur les gens seuls. Nous avons dû nous réfugier dans une cage d'escalier, essoufflés, traumatisés, séparés, pour certains en sang. Depuis, à Toulouse, à Nantes, à Paris et ailleurs, les flics forment des petites unités à moto et samedi dernier, à Toulouse, les voltigeurs voltigeaient. 30 ans, ça a l'air d'être le temps qu'il faut à une société pour oublier.
Un exemple, Marie-Kouziki.
Ce sont ces brigades motorisées de la préfecture de police, le peloton voltigeur motocycliste chargé de nettoyer les rues qui est ce matin mis en cause.
À Marseille, ces hommes ont un surnom. On les appelle les ninjas.
Sur chaque moto, en majorité tout terrain, capable de se faufiler partout et de grimper facilement sur les trottoirs, deux hommes, l'un pilote, l'autre est armé d'une matraque.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous de noir vêtus, portent un gilet tactique, avec très souvent le bâton de défense dans le dos. Et cette réputation de ninja, à savoir ce guerrier japonais qui ne lâche rien et qui n'a peur de rien.
Trembler. L'objectif de l'unité, commandée par un officier de police, est de surprendre, d'intervenir très vite dans un quartier contre les casseurs et d'impressionner le plus possible l'adversaire pour le déstabiliser.
Ça nous permet, comme l'individu qui soit à pied ou en scooter, de pouvoir monter sur les trottoirs, de pouvoir le suivre vraiment dans les petits chemins, chose qu'en voiture on ne peut absolument pas faire. Ça nous permet de le rattraper quand même beaucoup plus vite.
Des interventions rapides, souvent musclées, donc spectaculaires.
En principe, les petits commandos isolés d'étudiants, ou plus souvent de faux étudiants, ne se frottent pas à ce genre d'unité et évitent l'affrontement direct avec cette brigade très impressionnante et très mobile. Dans le feu de l'action, il y a malheureusement parfois des bavures, des claques ou des coups de matraque qui pleuvent sur des gens qui n'ont souvent rien à voir avec les casseurs.
Une opération séduction destinée à rassurer les Marseillais, inquiets de la multiplication des faits divers dans leur ville.
Heureusement qu'ils sont là, ils ont beaucoup de courage. Ça me fait très plaisir de voir tout ça. Ouais.
Ces policiers ninjas ne sont chargés que des interpellations et des flagrants délits, ce qui ne les empêche pas de collaborer lorsque cela est nécessaire avec des équipes d'enquêteurs.
La police assassine et la justice acquitte. La police assassine et la justice acquitte. C'est comme ça que je me définis, tout comme la plupart de nos ruelles. Je tiens à chaque arme que je possède, comme à la précieuse prunette de mes yeux. Allez donc dire à ces messieurs
les censeurs. Que s'est-il passé la nuit dernière, rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement? Un groupe de manipestants repliés sur le quartier latin après l'évacuation dans le calme de la Sorbonne par les forces de l'ordre dresse des barricades et incendie les voitures à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue Monsieur le Prince. Une patrouille motorisée intervient pour dégager la rue. C'est au moment de cette intervention qu'un jeune homme de 22 ans, Malik Houssekine, étudiant à Dauphine et né à Versailles, va trouver la mort malgré les efforts des sauveteurs pour le réanimer. Arrêt cardiaque consécutif au coup porté par les policiers, arrêt cardiaque dû à la peur. Une enquête est ouverte par l'inspection générale des polices, la police des polices, pour déterminer les circonstances exactes du décès de ce jeune étudiant. Mais pour l'instant, les témoignages sont accablants. Ce matin, avec le recul, un témoin raconte.
Je me suis foutu au balcon. Puis là, j'ai vu un gros de troupes de CRS qui descendaient la rue sur les manifestants, qui eux se sont tirés dans la rue Racine. Puis les CRS sont restés quelques secondes et puis ont continué à les poursuivre. Et à ce moment-là, quelques secondes après encore, j'ai vu trois CRS sortir de cet immeuble avec un mec qu'ils ont littéralement tabassé de façon extrêmement violente, au milieu, au nez de tout le monde. Puis à ce moment-là, je suis descendu. Et puis, quand je suis redescendu, j'ai revu encore les CRS qui le prenaient par le revers du col et qui l'ont balancé sur 3 mètres. Le mec s'est remis de ses émotions. Et le plus triste là-dedans, c'est qu'il s'est redirigé vers l'immeuble d'où il a été sorti et a composé le code, ce qui indiquait que c'était un résident. Et les CRS sont restés 10 minutes, eux, sur place. Et tous les étudiants étaient planqués dans les immeubles et à côté. Et ils étaient carrément tapis derrière cette grille. Et on voyait manifestement qu'ils avaient vraiment la trouille. Et... une fois que les CRS sont partis, on pensait qu'à porter secours au mec. Le SAMU est arrivé, on a vu les pompiers qui étaient complètement affolés au regard de ce qui se passait.
Un jeune homme de 22 ans, Malik Houssekine, étudiant à Dauphine, est mort cette nuit, rue Monsieur le Prince, à Paris. Le mouvement de protestation des étudiants et des lycéens de France a tourné au drame. Plusieurs témoins ont vu la scène dramatique et mettent en cause le comportement de la police.
Trois policiers auraient roué de coups le jeune étudiant. Plusieurs témoins l'affirment et l'un d'entre eux sera même frappé pour lui avoir ouvert sa porte.
Ils se sont précipités sur, je crois que ça s'appelait Malik, et l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. Et moi j'ai reçu quelques coups de matraque sur la tête.
Ce soir, le procureur de la République déclare que l'autopsie n'a révélé aucune fracture ni aucune lésion cérébrale. Le visage de Malik Houssekine est tout de même très sérieusement contusionné. Pour le procureur, une grave maladie rénale dont souffrait l'étudiant pourrait être plus directement que les coups responsables de sa décompression cardiaque. Fin de citation.
Je puis dès maintenant pouvoir vous dire que les forces de police ont fait leur devoir et ont obéi aux instructions qui leur ont été données.
Dans la journée, rue Monsieur le Prince, et pas seulement parmi les jeunes, peu de monde partageait la thèse du devoir policier. Un étudiant qui n'avait, semble-t-il, rien d'un casseur est mort à 22 ans la nuit dernière à Paris.
À Marseille, ces hommes ont un surnom, on les appelle les ninjas.
Voilà, donc ça c'était un petit retour, un petit rappel, parce qu'apparemment l'amnésie collective fonctionne très bien quand il s'agit de crimes policiers ou de choses comme ça. Oui. Alors du coup, ben voilà, on revoit des voltigeurs voltiger dans les rues de Toulouse. Alors il y a eu des témoignages aussi à Nantes, à Paris, à chaque manifestation, à la fin, il y a des petits ratissages de ville là en moto, là, c'est assez charmant.
Voilà. Ouais, ninja, ouais, sympa. Ouais.
Ninja, opération ninja. Voilà, on va. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Ah oui, si, dans la fin du. Je voulais préciser ça aussi, à la fin du documentaire, il dit oui, un garçon qui n'avait rien d'un casseur. Oui, bon, bah, non, normalement, on n'a pas tué les casseurs non plus. Hein,
ouais, c'est cool,
voilà,
ouais.
ça serait pas mal.
C'est sympathique,
aussi,
ouais, merci.
À moins qu'on veuille rétablir certaines lois désuètes, mais bon, voilà.
Non, mais voltigeur à moto, là, ça fait pas rêver, hein, parce que voltigeur à cheval, tu vois, ça peut être un peu plus cool, mais là.
À moto, non.
Non, à moto, voilà. Non.
Bah voilà, donc plutôt chômeur que flic.
Lutte sociale. Info du pays. Autodéfense populaire. Et politique. Chaque lundi à 18h sur Radio Saint-Afrique, c'est Ciao Troupeau.
Les châtiments judiciaires les plus habituels de ce temps en Angleterre restent la peine de mort, 150 cas sont prévus par le code pénal, et la déportation dans les colonies. Les prisons sont surtout des lieux de transit où l'on parque les déportés dans l'attente de leur transfert vers de lointains bagnes. Les autres détenus sont pour la plupart des débiteurs emprisonnés jusqu'au remboursement de leurs dettes. Comme le capitalisme naissant ne plaisante pas avec le crédit, il existe à Londres plusieurs prisons réservées aux débiteurs, notamment celles de la Fleet et de King Bench. La guerre dans les colonies américaines a cependant contraint les autorités royales à limiter les déportations et les prisons sont surpeuplées. Un programme d'inspiration hygiéniste et disciplinaire visant à moderniser le système carcéral est mis en œuvre depuis peu, conformément aux souhaits des réformateurs philanthropes, qui entendent avec Bentham, ce théoricien de l'abolition de la peine de mort qui a fait pendre un de ses domestiques pour un larcin, mettre au travail ceux qui y sont allergiques. La rationalisation de la fonction carcérale sera accélérée après la secousse qui a manqué de la rendre à jamais caduque. Fondée au XIIe siècle et symbole ancestral de l'oppression, Newgate est la plus vaste et la plus ancienne des prisons londoniennes. Elle vient d'être rénovée, agrandi et enrichi de divers ornements extérieurs, mais ses murs suintant la détresse n'ont rien perdu de leur lugubre hideur aux yeux des gueux qui lui vouent une exécration unanime. Caroubleurs, montants l'air, escamoteurs et larrons de tout talent, tapineuses et antiphysiques, mais aussi larbins chapardeurs ou trimards en querelle avec leurs tauliers, sans oublier les pugilistes irascibles et les virtuoses du surin, nombreux sont les pauvres à s'y morfondre ou à compter parmi leurs proches des bons bougres qui y croupissent ou y ont croupi. Tandis que des sentinelles de l'émeute se postent le long de chacune des voies d'accès à la prison, la foule envoie des délégués au geôlier pour exiger la libération des 13 personnes arrêtées la veille. Le gouverneur de l'établissement vient à sa fenêtre et les éconduit fort poliment, les priant d'attendre d'éventuelles instructions de la justice. À cette réponse, les ennemis de l'enfermement ayant épuisé leur propension aux civilités, le lapide généreusement et le force à se réfugier sur le toit avec sa famille et sa valetaille. Un solide jeune homme entreprend de casser toutes les fenêtres sur rue du rez-de-chaussée sous les vivats de la foule. Des échelles sont posées contre les murs du pavillon des geôliers. Les assaillants qui y pénètrent jettent tout ce qu'ils y trouvent par les fenêtres brisées afin d'alimenter le feu de joie qu'ont allumé leurs camarades contre le mur de la prison. Mais voici un intermède comique. Une petite centaine de constables surviennent alors, matraque en main. Les émeutiers leur ouvrent obligeamment le passage jusqu'au théâtre des troubles. Lorsque le dernier sbire a pénétré dans le piège, la populace se jette sur eux et les rosse avec une grande furie. À 8h du soir, le pavillon des geôliers est incendié, ouvrant une brèche dans la formidable forteresse. Un témoin oculaire relate que des émeutiers,
déterminés à la forcer, brisèrent les portes avec des barres et d'autres instruments et montèrent sur le toit du pavillon cellulaire qui relie les deux ailes où sont confinés les félons. Ils cassèrent le toit, déchirèrent la charpente et en descendirent au moyen d'échelles. Orphée lui-même n'a jamais eu tant de courage et tant de chance. Les flammes les entouraient de toutes parts, un corps de troupes pouvait survenir à tout moment, mais ils défièrent tous les périls. Le premier libérateur à pénétrer dans la prison se nomme Tom Haycox. Au juge qu'ils interrogeront sur les mobiles de sa participation à la prise de Newgate, il répondra simplement « La cause ?» Mais encore, il ne devait plus à l'aube se dresser une seule prison dans Londres. Point. Les démolisseurs qui ont adopté ce programme investissent avec assurance le bâtiment, que certains ne connaissent que trop, et entreprennent avant toute chose de forcer les portes des cellules et de mener au dehors les détenus, lesquels sont ovationnés par la foule au fur et à mesure qu'ils émergent de la fournaise. On leur rend les honneurs, on parade avec eux au rythme du tintement des chaînes qu'ils portent encore aux pieds. On les escorte chez les forgerons du voisinage pour leur ôter leur fer, avant de les laisser se fondre dans la cohue immense. 300 prolétaires, débiteurs ou félons, dont 3 étaient destinés à être pendus le lendemain, sont ainsi rendus à la liberté, pendant que leur libérateur, perché sur les murs de la prison, assiste en extase à son incendie. Comme pour l'attiser, certains pissent dans la fournaise en éructant entre deux blasphèmes d'effroyables jurons. Au bas des murs, un grand bal effréné célèbre la destruction en cours, le gin et le vin confisqués au geôlier qui en faisait grand commerce dans la chiourme sont distribués à la foule par seaux entiers. Le graveur et poète William Blake, alors âgé de 23 ans, est de la fête. Le feu de vie qui anéantit Newgate continuera longtemps de brûler dans son regard fertile, ses moments sublimes resteront le secret de ses ardentes visions. La tombe éclate, le suaire se froisse. Les os de la mort sous la glèbe et les muscles atrophiés, desséchés, s'animent en frémissant, respirent et s'éveillent, inspirés. Ils bondissent comme des captifs au fer brisé, que l'esclave qui peine au moulin s'échappe dans le champ, qu'il puisse embrasser l'azur et rire dans l'air radieux, et l'âme enchaînée, confinée dans les soupirs et l'obscurité, elle dont le visage en 30 années d'exténuement n'a pas vu un sourire. Qu'elle se dresse et regarde au dehors, ses chaînes ne la retiennent plus, les portes de son cachot sont grandes ouvertes.
Oui, barbare où je suis, oui j'aime le canon, la mitraille dans l'air, ami chanson.
La danse des bombes garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, ami chantons, ami dansons.
La
danse des bombes garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons,
amis dansons, la danse des bombes garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons. La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux.
Révolution. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre émission.
De retour en studio, ouais, c'est cool.
Et ben voilà.
Et t'as la référence de ta lecture, Clément ?
Oui, alors ma lecture, bien sûr, je l'ai même pas citée. C'était Julius Vandal avec Beau comme une prison qui brûle. Alors c'est un récit, franchement c'est excellent.
Ouais,
c'est super bien écrit et tout, c'est vachement drôle.
Ouais, ouais.
Et donc c'est un petit bouquin de 100 pages, même pas, 90 pages, paru aux éditions de l'Insomniac, d'ailleurs une maison d'édition que je conseille chaudement.
Okay.
Et voilà, ça parle de cette émotion populaire de 1780 à Londres. Mmh. Et c'est très drôle, c'était une révolution de Jean Bourré.
Voilà. Parfait.
Alors peut-être qu'on peut faire 2-3 petits rendez-vous pour cette semaine, là, si vous nous écoutez en direct. Il y a Polisson qui sont dans le coin,
Il y a Afrique, Polisson qui pose son chap à Vabre, ouais, et ça commence Vabre, vendredi soir. J'ai pas le programme en tête, mais l'agenda de Radio Saint-Af diffuse régulièrement tout ce qu'il faut pour ceux que ça intéresse.
Voilà, on n'a pas le programme, mais comme c'est des copains, eh ben on l'annonce.
Tout à fait.
Et puis d'ailleurs, il y a un truc dont on a le programme, mais c'est pas des copains, mais on l'annonce quand même.
Ouais, faut bien.
C'est les rencontres autour de l'autogestion de Montpellier. Donc c'est le week-end prochain, vendredi et samedi 12 et 13 mai. Voilà, ça se passe à la mauvaise réputation, c'est dans le quartier Sainte-Anne, et donc c'est les rencontres autour de l'autogestion. Vous trouverez plus d'infos sur le Démosphère de Montpellier, voilà, okay, si ça vous intéresse.
Cool.
Il y a des projections, je crois, il y a des trucs avec les réalisateurs qui seront là aussi pour discuter des films, okay, et tout ça.
Chouette.
Donc voilà, les rencontres autour de l'autogestion. Et puis, bah voilà, on se dit au revoir.
Et ben voilà, déjà, on se dit au revoir dans une semaine en rediff ou dans 15 jours en direct.
Exactement, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne.
Ouais, tout à fait.
Merci Nicolas.
Et ben merci à toi aussi, Clément.
Et puis, je sais pas, si vous voulez nous joindre, ah mais non, c'est pas ça qu'il faut que je lance.
Qu'est-ce qu'il fait, là, le garçon.
Il est complètement, voilà, bon, il est perdu.
C'est la fin de l'émission, on a toujours du mal à lâcher.
Quoi. Vous pouvez nous contacter à Ciao Troupeau, T-C-H-A-O, Troupeau, @radiosaintafrique.com si vous voulez nous joindre, et sinon vous pouvez nous rejoindre
aussi
le lundi ici, à 18h dans les studios.
Ouais, c'est ça, au cul de l'église.
Voilà, au cul de l'église.
Enfin, vous pouvez
mais... vous pouvez aussi nous réécouter sur www.radiosaintafrique.com en podcast, vous pouvez télécharger, etc. etc. Et puis on se dit à dans 15 jours alors.
Et c'est ça, allez, mieux vaut l'éducation que la répression, n'oubliez pas.
Voilà, l'émission est terminée, merci de l'avoir suivi, au revoir.
Ciao, ciao le troupeau, je me bats, je m'en vais broutiller haut de pas. Dé, 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 dé. Ciao, ciao le troupeau, je me bats, je m'en vais broutiller haut
de
pas.
Il est l'heure de quitter le troupeau et de rejoindre la meute.
J'ai jamais squatté la routine et le manque de vie qui se tasse. Sac à dos à arrache, allez hop, je me casse. Et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur. Quitte à galérer ici, je m'en vais galérer ailleurs.
Ciao troupeau, chaque lundi à 18h sur Radio Saint-Afrique.
Ciao troupeau.
Now open your eyes and switch off this recording. And prepare yourself for the next section on Program 2.